jamais tout à fait le même. Enfin, on n'est jamais tout à fait un autre non plus.
Moi, wow. Un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir. Mais qui est-il ? Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Vous avez rendez-vous avec nous, une soirée énervée en deux temps et à deux vitesses, comme chaque jour. Ça commence dès 18h en podcast avant le passage à l'antenne, 22h minuit, comme les collègues. Première partie, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Ce soir, l'actu, c'est le mi-temps du quinquennat. Macron, cet inconnu, mais qui est-il ? À l'hémistiche de son mandat, le président Macron demeure un être complexe, incernable, inclassable. Bilan de l'acte 1, mais que nous réserve l'acte 2. On va prédire l'avenir, Christophe Boursaillet.
Mais qui êtes-vous, Laurent ? C'est ça, prédire l'avenir.
J'adore ça.
Ça serait bien comme titre, ça.
Ça serait magnifique.
Mais qui êtes-vous, Laurent ? Vous voulez des titres, là ?
Allez-y.
C'est à ce moment-là que je donne des titres. D'accord. Alors, qui est vraiment chef de l'État ? Ça, c'est le titre un peu triste. Un inconnu aux manettes, pour l'interrogation. Ensuite, on monte doucement. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Macron, si jeune et déjà vieux, pour l'interrogation, Macron, c'est inconnu. Ou alors Macron vers une césure à l'hémistiche, ça c'est plus original.
Ah, ça c'est vraiment plus,
c'est plus
figure
macronien.
De style. Exactement. En live, Marion.
Une inconnue ou presque, elle aussi. Elle s'appelle Sabine Appart et elle chante L'amour vache. Elle est en live à la fin de l'émission.
C'est pas mal comme nom, hein,
c'est
Sabine
Appart.
Appart. Moi, j'aime
c'est
beaucoup.
Très macronien.
Ouais. Et puis autre temps, autre parole, ce sera le NRV La Suite. France Inter plus de 13 novembre, l'enquête. C'est la suite de la série de Sarah Guibaudot qui revient sur l'histoire des attentats qui ont endeuillé Paris et Saint-Denis. Ce soir, gros plan sur les francophones qui gardaient les prisons de l'État islamique et sur les appels de Daesh à commettre des attentats en Occident. Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Christophe Boursier, avant de vous lancer dans un éditorial échevelé, je vous présente nos invités. Jérôme Sainte-Marie, vous êtes spécialiste de l'opinion publique, fondateur de Pollingvox et vous signez Bloc contre Bloc, la dynamique du macronisme aux éditions du Cerf. Bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse, ancien condisciple de Macron à l'ENA et vous publiez vous-même Emmanuel le faux prophète, ce que cache la révolution Macron aux éditions du Rocher. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Juste à côté, Nathalie Segaune, vous êtes journaliste à l'opinion et vous êtes l'auteur du dossier Mi-mandat, ce que le pouvoir a révélé de Macron.
Bonsoir. Bonsoir.
Et enfin Jean-Marie Roire, entre nous deux Christophe, on se l'est
tout
réservé,
à fait.
Écrivain,
gardé.
Académicien. Votre livre Les aventuriers du pouvoir de Morny à Macron, c'est aux éditions Robert Laffont. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
L'éditorial, à vous de jouer.
À moi de jouer. Bon, bah, je vais tenter
Christophe
le coup. Alors, ce qui est sûr, Laurent, c'est qu'Emmanuel Macron a posé dès le départ en 2017 un cadre inhabituel. Il a repris à son compte le style du populisme pour forger un populisme anti-populiste. Il a voulu contourner les corps intermédiaires. Il a appelé à la révolution. Il a voulu dialoguer directement avec le peuple. Mais pour quel objectif, Laurent ? Eh bien, des réformes correspondant aux critères demandés par une Union européenne sous influence allemande. Alors, a-t-il mis la révolution au service de l'establishment, c'est maintenant que tout se joue. Le voici à mi-parcours. L'effet de surprise ne joue plus. Pourra-t-il continuer à subjuguer la France ? Au plan européen, parviendra-t-il à faire entendre une voix dissidente ? Comment, Laurent, peut-on être en même temps, centriste et révolutionnaire, patriote et européiste, anticonformiste et désireux de préserver le cadre existant. Alors, Nathalie Segaune, donc vous êtes l'auteur de ce récent dossier sur Macron paru dans l'opinion, et dans le cadre de ce dossier, là je m'énerve, je sais pas pourquoi, vous écrivez à la fois ange et démon, charpenté et déstructuré, capable de sang-froid en pleine crise des gilets jaunes, et perdant ses nerfs lorsque sa candidate à la Commission européenne est rejetée, le chef de l'État français est un homme complexe que l'exercice du pouvoir découvre peu à peu. Complexe, dites-vous ? Et pourquoi ?
J'adore
ah bah oui.
Cette
ah bah.
Dramaturgie.
Bah c'est ça. J'essaie de faire un peu de dramaturgie. Oui.
Complexe, oui, parce oui. qu'il a plusieurs visages, comme on l'a tous vu depuis... Alors, il a un côté... Déjà, ce qui nous a tous frappé quand il est arrivé au pouvoir, c'est le côté frégoli. C'est-à-dire, il a endossé plusieurs costumes successifs, celui du sous-marinier pour descendre dans un...
C'est vrai qu'il avait des panoplies formidables.
Il a eu une variété de panoplies. Voilà, il a commencé par ça, par cette mise en scène, par ce spectacle, sans doute qu'à un moment, on lui a dit trop c'est trop, il faut que tu arrêtes, il faut que tu te calmes. Mais sauf qu'il a aussi plusieurs visages. Il était pendant la campagne un homme qui voulait apaiser la France, réconcilier les Français entre eux, etc. Et à peine arrivé au pouvoir, il a tout fracassé. Enfin, tout fracassé, j'exagère. Mais il a multiplier les provocations, d'abord verbales, mais aussi dans ses décisions. Et ensuite, il a énormément clivé les Français, montré du doigt les uns qui étaient des fainéants, aider les premiers de cordée, etc. Donc il a monté les Français les uns contre les autres. Donc quel est le vrai Macron? Alors la spécificité quand même, je dois dire, vous ironisiez sur cet inconnu, quand même c'est le premier président de la République qui arrive au pouvoir sans avoir 30 ans de vie politique derrière lui. Donc on a vraiment...
On n'a pas l'habitude de Macron, c'est
voilà,
ça?
Voilà, hein, on ne le connaissait vraiment pas. Enfin, personne ne savait qui il était. Il nous a séduit par sa jeunesse et par d'autres qualités, mais on ne le connaissait pas.
Est-ce que le pouvoir l'a changé? Puisque vous l'avez connu, Julien Aubert, il était votre condisciple dans l'ENA. Est-ce que le pouvoir l'a véritablement changé? Et qui était-il quand vous l'avez connu?
Il était déjà mystérieux, vous dites, dans votre livre.
Oui, il était mystérieux. Il présente l'avantage d'être à la fois un animal sociable, mais solidaire, mais solitaire, solaire, pas très scolaire. C'était quelqu'un qui était apprécié de tous, qui n'avait pas d'ennemis. Les gens de droite pensaient qu'il était de droite, les gens de gauche savaient qu'il était de gauche, mais il ne se mettait pas, si vous voulez, dans des situations où il pouvait être forcé de prendre un camp et de se retrouver avec des adversaires. Donc c'était à la fois une personnalité bienveillante, qui a laissé de bons souvenirs, et qui en même temps avait peu d'attaches, c'est-à-dire peu d'amis dans la promotion. Tout le monde en était camarade, mais personne n'était véritablement son ami. Est-ce qu'il a changé? Lorsqu'il est revenu comme ministre à l'Assemblée nationale, j'ai retrouvé exactement le même personnage, Casanova, Don Juan, séducteur, très intuitivement sympathique. Il a un vrai talent de charmeur de
oui,
serpent.
Jean-Marie Roire le confirmera.
Voilà. Ouais. Après, je crois que l'exercice du pouvoir l'a quand même rendu plus narcissique, plus isolé, et aussi peut-être plus fragile, parce qu'il avait, c'est quelqu'un qui a connu des succès toute sa vie, et je crois que la crise des Gilets jaunes l'a ébranlé beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser.
Mais ce côté florentin, Jean-Marie Roire, c'est très très frappant quand on lit le chapitre que vous consacrez dans votre livre à Macron. Vous dites « Macron s'embarque dans son verbe comme à bord du bateau ivre de Rimbaud ». Vous dites un peu plus loin « On garde des discours de Macron une impression de flou, de brillant exercice jaculatoire dont le souvenir s'évapore ».
Je trouve en effet un peu verbeux, moi qui adore le verbe, j'aime bien les hommes politiques qui vont directement, j'aime bien Napoléon, dont je parle également de mon livre, ou de Gaulle, parce qu'ils essaient, disons, d'aller directement, ils ne font pas de rhétorique. Et c'est la différence avec Macron, qui part dans des discours très fumeux, et on ne sait pas très bien jusqu'où il va venir. On dirait un peu des auto-tamponneuses, ses idées sont... Mais il me semble que ce qui me frappe chez lui, et ce que j'admire chez lui, c'est ce lien qu'il a avec l'histoire de France, avec les personnages mystérieux de l'histoire de France, quasiment avec Jeanne d'Arc et avec De Gaulle, parce que c'est vraiment un homme qui a réussi à arriver par miracle. Il a réussi cette chose invraisemblable, c'est ce que le pari qu'avait fait Villepin, mais qu'il n'a pas réussi, c'est-à-dire de sortir de rien, d'emporter non seulement l'élection présidentielle, mais en plus les élections législatives. Donc je crois que ça lui donne ce qui est un caractère, disons, vous savez, autrefois les rois faisaient des miracles, c'était thaumaturge, ils guérissaient les écrouelles. Je crois qu'il y a quelque chose, quand même, dans l'opinion, même si en ce moment il est un peu en défaveur, il y a quelque chose dans l'opinion qui rappelle des vieux souvenirs de l'histoire de France, quelque chose de miraculeux dans son destin.
Pour autant, c'est quelqu'un qui a créé en France quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis quelque temps, c'est-à-dire non pas la lutte des classes, parce que vous revenez sur ça, hein, Jérôme Sainte-Marie, dans votre livre, mais des blocs, une confrontation de blocs, et que Macron serait l'émanation d'un bloc élitaire. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion de bloc élitaire qui définirait, en fait, la personnalité et le fonctionnement et la politique d'Emmanuel Macron?
Très volontiers, je vais faire un petit détour par l'histoire de France, que Jean-Marie Roire nous y invite. Et qu'est-ce qui est pour moi, effectivement, Emmanuel Macron? Il me rappelle deux personnages complémentaires de l'histoire de France, ceux qui sont décrits par Karl Marx, dont je m'inspire beaucoup pour ce livre. Vous savez, en 1830, quand Charles X est renversé, les révolutionnaires n'ont pas de leader, et là, il y a un banquier, le banquier Lafitte,
exactement,
qui, et Karl Marx écrit, banquier Lafitte arrive avec celui qui va devenir Louis-Philippe, et Karl Marx rajoute, désormais, le banquier Lafitte avait trahi le secret de la révolution, ça serait la banque qui va gouverner. Et je crois qu'il y en a Emmanuel Macron, il y a ces deux personnages, il y a un peu du banquier Lafitte, et puis il y a aussi Louis-Philippe, sauf que cette fois-ci, la banque s'est présentée elle-même, et que le régalien et le financier, en quelque sorte, sont fondus dans un seul homme. Tout ça, de manière plus générale, a réveillé en France un imaginaire de classe sociale qui fait beaucoup penser au siècle où ont été écrits justement les principales œuvres de Karl Marx. Et d'ailleurs, au moment de la grande crise du quinquennat qui a été la crise des Gilets jaunes, on a retrouvé beaucoup de choses, m'a-t-il semblé, de ce qui avait été décrit par Karl Marx, mais aussi par Victor Hugo ou par surtout peut-être Alexis de Tocqueville lors des grandes journées révolutionnaires qu'a connu la France à cette époque et plus précisément lors de la grande insurrection parisienne
de juin
1848, très bien décrit dans Chose vue par Victor Hugo, me semble-t-il, dans les souvenirs par Tocqueville, avec ce climat de détestation mutuelle.
Bien sûr, sauf que là, évidemment, Macron est en quelque sorte du mauvais côté du manche. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est ce que vous dites dans votre livre, vous dites que c'est une idéologie révolutionnaire au service des élites, et vous faites remarquer quelque chose que j'avais oublié, c'est que Macron publie en 2017 un livre qui s'appelle Révolution, et un an auparavant, le banquier Mathieu Pigas publie un livre qui s'appelle Révolution. C'est le même titre, hein, sauf que c'est au pluriel dans le cas de Mathieu Pigas. Ça tient du hasard ou d'un hasard assez heureux quand même?
Ah non, je pense qu'il y a une vérité profonde. Moi, je prends très au sérieux ces titres d'ouvrages et ça nous rappelle justement dans ces ouvrages du Karl Marx historien, celui qui m'intéresse, hein, c'est pas le Karl Marx économiste et encore moins le marxisme-léninisme, le Karl Marx historien et sociologue a beaucoup insisté, ce que la gauche a totalement oublié, sur le fait que la bourgeoisie jouait systématiquement un rôle révolutionnaire de transformation des modes de vie et même de transformation des valeurs morales au service, disons, de l'extension du règne de la marchandise. Il y aurait plein d'exemples contemporains à prendre en ce sens.
Qu'est-ce que l'épisode des Gilets jaunes a révélé de la personnalité d'Emmanuel Macron, d'après vous, Jean-Marie Rouard ?
Écoutez, ce qu'elle a manifesté, je crois, ça a manifesté à la fois une grande imprudence dans un certain nombre de décisions qui ont entraîné le mouvement des Gilets jaunes, une méconnaissance de ce qu'étaient les Français, c'est-à-dire les Français au quotidien, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il les voyait de très très haut, il n'a pas compris que la question des retraites était quelque chose d'essentiel, bon, et que commencer à ponctionner les retraites, c'était effroyable, et puis surtout la bagnole. Non, mais on ne touche pas à la bagnole. Il faut s'imaginer à quoi vraiment l'utilisation de la voiture en province. C'est vraiment une position, là, technocratique, ne pas se rendre compte que c'est essentiel. C'est la vie, la voiture, en province. C'est-à-dire que c'est ce qui permet d'amener les enfants à l'école, de partir en vacances, d'aller retrouver sa maîtresse, donc, son amant. Enfin, c'est essentiel.
Donc ça a révélé un Macron technocrate, mais pas autre chose, d'après vous ?
Moi, Julien
Aubert.
Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que il est effectivement l'homme d'une révolution venue incarner un capitalisme mondialisé et peut-être le sauver, parce qu'aujourd'hui, il y a un désaccord démocratique fondamental sur les conditions de développement économique, et il ignore profondément la manière dont une partie de ce pays fonctionne. Et donc, lorsque cette partie du pays qui finalement, depuis 20 ans, paye un petit peu l'addition des mouvements économiques, a commencé à se révolter, il ne l'a pas vu arriver. Maintenant, il a commencé comme Louis XIV, un peu en le méprisant. Et ensuite, ce réflexe, au lieu de s'appuyer et de jouer collectif, il s'est immédiatement mis en avant. En disant, en parlant d'ailleurs, hein, toujours le verbe, effectivement, en disant « je me montre, le roi sort de sa forteresse, il se montre au peuple, et en disant « touchez-moi, regardez, j'existe et j'incarne l'autorité ».
Le roi ou le messie, parce que dans votre livre, oui. Emmanuel Le Faux Prophète, vous allez jusqu'à le comparer à une forme de mystique, vous envisagez une sorte de mysticisme macronien. Il y a une dimension mystique chez Macron ?
Écoutez, quelqu'un qui en 2016, lors d'un de ses premiers discours, se compare à Jeanne d'Arc, ou qui assume avoir une part de transcendance, quand on connaît la définition du mot transcendance, c'est quelqu'un qui, de toute évidence, soit entretient la réputation qu'il a, parce que il sait aussi que cette espèce de vista impressionne ses adversaires, et que quelque part, il a le mandat du ciel, et donc les gens se disent, finalement, est-ce que cet être ne verrait pas plus loin, et ne serait pas d'une intelligence supérieure qui lui permettrait peut-être de résoudre les problèmes futurs, ou est-ce que il se croit sincèrement investi d'une mission particulière, qu'il a aveuglé à un moment donné, parce que la grande force quand même de l'élection de 2017, c'est qu'effectivement, Louis-Philippe s'est fait élire, et il suffisait de voir le potentiel idéologique idéologique d'un Emmanuel Macron pour se dire qu'il n'était pas majoritaire dans le pays. Mais une grande partie des Français ont voté pour lui en se disant, ils l'ont pas vu comme un idéologue, ils l'ont vu comme simplement un réformateur et quelqu'un de moderne.
Pas véritablement, je vois lever les yeux au ciel.
Non, quand Julien Aubert parle, je ne lève jamais les yeux au ciel.
D'être dubitatif par rapport à
son yeux. Non, je trouvais dans l'enthousiasme macronien et exagéré dans la mesure où
il n'a pas été élu par une majorité de
24% des Français l'ont choisi.
Et ça, vous le précisez bien justement dans votre
choisi au premier tour et le second tour ne posait pas problème en réalité. Aucun sondage, tous les candidats qui étaient choisis face à l'époque. Je pense que ça changera désormais. Tous les candidats qui étaient choisis, qui étaient qualifiés n'importe lequel, qualifiés face à Marine Le Pen, auraient été élus. Les sondages l'avaient dit.
Et c'est la raison.
Et
pour...
aurait eu sans doute une majorité à l'Assemblée.
Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous appuyez dans votre livre en disant que c'est bien parce qu'il était face à Marine Le Pen qu'il pouvait se permettre de dire je ne changerai rien de mon programme. Je ne suis pas un homme qui va faire des compromis comme les précédents lors des élections.
Voilà justement pour les forces sociales qu'il représente, c'est-à-dire ce que j'appelle moi le bloc élitaire. Donc en trois mots, si vous voulez, le bloc élitaire, je le décris comme l'alliance est forgée autour d'une idéologie commune entre l'élite réelle, ce qu'on appelle parfois le 1%, et sans rentrer dans les termes polémiques, ça existe.
Les grands patrons, les banquiers.
Existe, ceux qui sont vraiment aux manettes de décision et qui ont la vraie propriété, si vous voulez, dans ce pays. Ensuite, les cadres supérieurs qui sont en une condition plus ou moins aisée, mais qui en tout cas se reconnaissent complètement dans cette élite, sur en quelque sorte ce que j'appellerais l'élite aspirationnelle. Ils aspirent à faire partie de l'élite véritable. Et enfin, une bonne partie des retraités, quel que soit leur revenu, qui considèrent que malgré tout, il vaut mieux que ce soit l'élite qui soit aux manettes pour garantir justement leur pension de retraite et la stabilité du système. Donc c'est l'élite par procuration. Ça fait à peu près 24%. En tout cas, ça s'est retrouvé comme ça dans les urnes. Ça s'est peut-être même consolidé à l'occasion des élections européennes en changeant un tout petit peu de composition. Et face à ce bloc, soudé, avec une idéologie commune, qui reste assez stable jusqu'à présent. Et crise après crise, ça se maintient. La crise des Gilets jaunes a peut-être permis, en miroir de ce bloc élitaire, la constitution d'un bloc populaire.
Est-ce que Macron ne serait pas ce grand fauve de la politique? Tout ça pour vous présenter fauve, leur projet avait réveillé la musique en France. Ils ont changé de nom, ils s'appellent Magenta, et ça prend la suite de cette pop qui crise.
Est-ce que c'est assez suffisant? Est-ce que c'est assez puissant pour te retenir ici bas avec moi, pour te maintenir intact en état? We'll be right back.
c'est pas guérir, mais quand même, c'est déjà ça. Ça vaut bien un sourire. Je veux balayer d'un soupir le dard, le mauvais sang, comme le soleil va rougir dans le jour naissant.
C'est signé par le collectif Magenta. Ben non, nous on va continuer. Nous c'est encore.
Nous c'est encore.
Oui,
plutôt,
c'est même hein. Le nom d'un séminaire de Lacan. Ça change.
Oh, vous êtes brillant.
Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Le Gaulois réfractaire au changement.
Et je ne céderai rien,
ni au fainéant, ni au cynique.
Il y en a certains au lieu de. Le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas parce qu'il y en a qui ont les qualifications.
Oui, oui. Pour le faire, hein.
France Inter.
Je traverse la rue, je vous en trouve. Je vais aller simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole.
Le nouveau rendez-vous.
On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres.
Laurent Goumard.
J'essaie de le nommer, parfois crûment, et parfois quand on s'approche de la vérité, on s'y brûle.
J'adore, on dirait du stand-up. Les quelques phrases d'Emmanuel Macron pendant l'acte 1, parce que oui, on est exactement à mi-mandat et on en parle avec nos invités. Jérôme Sainte-Marie, spécialiste de l'opinion publique. Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse, ancien condisciple de Macron à l'ENA. Jean-Marie Roire, écrivain académicien. Et vous, Nathalie Segaune, qui est journaliste à l'opinion. Puisqu'on parle de mandat, quel serait le premier dossier que vous sortiriez, vous, Nathalie Segaune?
Je sortirais,
ouais. Le premier dossier qui vous vient à l'esprit quand on parle de bilan.
Ouais.
On parle de bilan.
Les gilets jaunes, j'imagine.
Moi, c'est quand même les 17 milliards, il lâche tout. C'est le 10 décembre 2018, quand il lâche tout face à la colère des gilets jaunes. Alors, il a été très critiqué, on peut le critiquer au plan économique, mais en faisant ça, je ne pense pas qu'il y avait d'autres solutions, honnêtement, et en faisant ça, et en initiant le grand débat, en se livrant à un grand débat, même si c'est de nouveau Jupiter qui va parler aux Français en tête à tête, sans les corps intermédiaires, etc., de la critique qui lui a été faite, quand même, il réussit à recréer un magistère politique dans le pays. Alors aussi parce que les oppositions sont faibles, elles sont absentes, elles sont mauvaises, etc. Mais il réussit ça, ce qui n'était pas gagné. Il a quand même eu très peur le 4 décembre au Puy-en-Velay. Il aurait pu être tétanisé par cette crise. Et une de ses caractéristiques, quand même, ce qu'on a découvert de lui pendant cette première partie, c'est qu'il affronte les problèmes. Il ne les contourne pas, il ne les nie pas, il va à l'affrontement. Alors après, maladroitement sans doute, par moments... Parfois sans savoir quel sera le point d'atterrissage. Par exemple, aujourd'hui, sur les retraites, honnêtement, il y a une grande mobilisation sociale qui se prépare.
Mais pour le 5 décembre.
On n'a pas l'impression qu'il sache réellement où il va, où il veut atterrir et ce qu'il veut faire. Donc, c'est un comportement politique qui crée de l'anxiété chez les gens, qui rajoutent de l'anxiété, qui n'est pas franchement rassurant. Mais au moins, il a cette qualité d'aller affronter les problèmes et surtout de se corriger aussi tout le temps. Il se corrige. Finalement, les 17 milliards, c'était aussi une correction. Il est lucide sur ses défauts, ses erreurs. Je pense que c'est un président qui réfléchit tout le temps à ce qu'il fait. Vous parliez d'histoire tout à l'heure. Lui, il n'a pas de background, il n'a pas d'histoire personnelle. Et il va toujours chercher chez ses prédécesseurs, dans les livres, etc. En ce moment, il lit Georgette Elger sur la 4e République. Il va chercher chez ses prédécesseurs pour voir comment ils ont fait, ce qu'ils ont fait, comment ils ont réagi. Et c'est quand même enfin, c'est nouveau, mais c'est, oui, c'est quand même positif. Enfin,
quand on pense qu'il succède à des présidents qui avaient finalement moins de culture historique que lui, d'une certaine façon. Hein. Alors, c'est vrai, Jean-Marie Roy, dans votre livre, il y a une petite anecdote qui est assez troublante, c'est que vous le croisez, vous le rencontrez peu de temps avant son élection, je crois, et il vous dit une phrase qui est très bizarre, qu'on ne dit pas à quelqu'un qu'on rencontre comme ça, et il vous dit « Je suis inquiet, j'ai peur que le système n'explose ». Système qui a explosé en fin 2018, d'une
certaine façon.
C'était
au moment où je le félicitais, et comme il habitait à ce moment-là à côté de chez moi, je le vois dans la rue, je m'approche de lui, il me tend la main, et là, il y a quelque chose de tout à fait étonnant, parce qu'il me prend la main, il garde sa main dans la mienne.
Ça, il fait fixe, le coup à tout le monde.
Fixe,
hein.
Il fixe avec ses yeux bleus, intenses. Et il y a vraiment, non, mais parce que quand même, j'ai rencontré un certain nombre, comme vous, d'hommes politiques. C'est rare d'avoir un contact aussi fort. Vraiment, on sent une présence charismatique, quelque chose de très fort. Mais je voudrais dire un mot sur les gilets jaunes. Je crois que c'est quand même étonnant de voir ce personnage qu'on a comparé presque à De Gaulle et à Jeanne d'Arc. C'est quand même bizarre de le voir se lancer dans ce grand débat. À la fois, c'est très courageux, mais en même temps, c'est la renonciation totale, à la fois les 18 milliards, mais en plus, c'est quand même invraisemblable de voir un homme qui, subitement, va passer 8 heures avec des intellectuels. Franchement, moi, je passe un certain temps avec des intellectuels.
8 heures, c'est trop.
Une heure, c'est beaucoup. Mais 8 heures, c'est à peu près l'équivalent de ce que passait avec des journalistes du Monde, je crois, 48 soirées, et François Hollande. Franchement, ce sont des gens très courageux, mais moi, ça me dissuaderait de faire de la politique.
C'est un épisode, d'ailleurs, sur lequel vous revenez, cette confrontation avec les intellectuels dans votre livre, Jérôme Sainte-Marie.
Oui, bien sûr, parce que c'est un exercice très particulier de voir ces gens qui sont censés être des intellectuels qui vont se prêter à un exercice de communication. Ils savent très bien que à une soixantaine, ils auront peut-être une minute trente. Donc absolument pas les conditions d'un quelconque échange intellectuel, précisément. Et ils viennent se prêter de bonne foi. Alors évidemment, c'est des gens qui sont très faciles à flatter, par définition, mais...
comme tout le monde, hein, franchement. Voilà.
Après, c'est l'esprit de cour, sans même en espérer, d'ailleurs, de rétribution autre que symbolique. Mais ça m'intéresse beaucoup parce que ça illustre d'une certaine manière la densité de la faveur que cet homme trouve au sommet de la société, qui n'a d'égal que l'immensité de la détestation qui s'exprime à la base de la société.
Mais c'est bien ce que vous dites. Hein. Jérôme Fourquet dit que la société s'est atomisée. Vous dites non, elle s'est polarisée en deux blocs. Le peuple d'un côté, les élites de l'autre.
Non, je dis pas. Oui, enfin, je dis que
le bloc élitaire et le bloc populaire. Vous dites.
Je parle pas d'élite et de peuple. Je veux pas me caricaturer à ce point-là. Si vous
voulez, bloc populaire.
Les élites, c'est pas 24% du premier tour et encore moins 66% du second. Et le peuple, les élites en font partie également. Donc les gens qui soutiennent Macron appartiennent au peuple. Le problème n'est pas là. C'est quand même les identités sociales, c'est-à-dire effectivement. Quand je parle de bloc élitaire, c'est les gens qui se reconnaissent dans le pouvoir de l'élite, ceux qui sont au sommet de la société. Vous savez, l'opinion, alors c'est le sondeur qui parle en l'occurrence, je n'ai jamais vu ça en réalité pour un président de la République. L'opinion qu'ont les gens d'Emmanuel Macron est strictement corrélée à leur revenu, à leur niveau de diplôme, à leur aisance par rapport à la mondialisation et au monde qui vient. Ça, c'est constant. On n'a jamais vu un tel alignement des points de vue et du vote par rapport à la situation sociale. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il me semble que raisonner désormais de nouveau en termes d'affrontement social, pour ne pas dire de classe sociale, me paraît adapté. On a déjà connu ça, en fait. Je dis une bêtise. On a déjà connu ça une fois. Mais c'était pas pour un président de la République. C'était lors du vote sur les référendums pour l'Europe, et notamment en 2005, le fait Emmanuel Macron, c'est le noyau dur de la France du oui. Le problème, c'est que la France du non, en 2005, a été majoritaire.
Julien Aubert, comment vous regardez-vous ce premier hémistiche, on pourrait dire, puisque c'est le mot qui a été employé
par Macron.
Par Macron qui a lui aussi fait ses humanités.
C'est plutôt une oxymore, mais non. Je crois effectivement que, comme il le dit lui-même, il a une pensée complexe et qu'il marche en crabe. Voilà. Donc la différence entre
il a une pensée complexe et il marche en crabe.
Oui, oui, il marche en crabe. Il évolue en crabe. Ouais. D'abord, il est capable de défendre tout et son contraire avec une très grande plasticité. Il est à la fois celui qui va vous condamner les nationalismes et puis ensuite se mettre brutalement à faire un virage à la droite en disant il faut sur l'aide médicale d'État prendre une politique très à droite. Donc il a cette capacité du zigzag. Je crois que ça procède effectivement à la fois d'une pensée très complexe et en même temps d'une très grande fébrilité parce que c'est un jeune homme politique Et que ce qu'on apprend effectivement au contact des électeurs, c'est parfois à relativiser, c'est apprendre aussi à faire attention aux mots qu'on utilise et aussi à s'adapter à un écosystème. Et je crois qu'il a été très rapidement projeté tout en haut. C'est d'ailleurs pour ça que le premier sentiment que j'ai eu le soir où il a gagné, c'était à la fois j'étais épaté et en même temps j'avais entre guillemets peur pour lui parce que je me dis j'espère qu'il a les idées très claires. Parce que le but, on le connaît à peu près, les moyens pour y parvenir, c'est quelque chose de plus complexe. Je crois que parfois, il découvre au fur et à mesure les moyens. Au début, il avait quelques idées claires, on a vu sur les ordonnances travail, etc. Oui. Et puis très rapidement, les choses se sont complexifiées. Et ce qui, moi, me marque dans ce début de mandat, c'est que finalement, c'est un homme assez solitaire. C'est que quand il y a une crise, il revient essentiellement à lui-même. Il est le seul, en fait, à être autorisé à faire de la politique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les autres sont parfois pris en défaut.
Il y a un noyau dur, vous avez tout à fait raison. Mais en même temps, il faut bien qu'il essaie, s'il veut gagner d'autres élections, de grignoter un peu en dehors de ce noyau. Au dur de ce bloc élitaire, dites-vous, Jérôme Sainte-Marie, qui le soutient. Or là, je lis une phrase que j'ai trouvée dans la presse de l'économiste Mathieu Muchery, je vous la cite. On n'a rien obtenu en 2 ans et demi, ni simplification administrative, ni nomination judicieuse, ni amorce de réformes structurelles, ni rien de bien consistant sur la scène européenne. Donc c'est évidemment un bilan un peu mitigé, mais est-ce que ce bilan est justifié selon vous ?
De ce point de vue-là, mon bouquin était une forme d'apologie du macronisme comme expression politique, comme forme politique parfaitement adaptée à son projet et à notre époque et aux intérêts de certains dans cette époque. Le problème, c'est que toute la question politique est posée, c'est est-ce que c'est bien l'intérêt général ou pas ?
Ah non.
Et ça, c'est bien sûr, c'est pas à moi en tant que sondeur d'y répondre. Est-ce que l'intérêt privilégié de certains correspond à l'intérêt général ? C'est possible.
C'est toute la stratégie de Macron, justement, de faire croire que l'intérêt de certains privilégiés, c'est l'intérêt général.
C'est classique qu'on appelle conquérir l'hégémonie, c'est-à-dire considérer que les intérêts de quelques-uns correspondent, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, aux intérêts de tous. Il n'y a pas de raison pour que encore une fois, moi je n'ai pas un discours anti-élitaire, s'il y a des élites, c'est pas non plus pour rien. Simplement, là, le petit problème qu'on a avec Emmanuel Macron, c'est que c'est très transparent, si vous voulez, qu'autrefois il y avait la gauche et la droite, c'était des ensembles culturels assez composites sociologiquement. Là maintenant, on a un clivage qui est largement moins idéologique, mais qui est par contre socialement beaucoup plus pur. Et donc ça crée une forme de conflit, si vous voulez. Dernière chose, moi s'il y a un reproche que je ne fais pas à Emmanuel Macron, j'ai d'ailleurs à lui faire ni reproche ni compliment, mais je trouve sincèrement que Emmanuel Macron est extrêmement clair dans son projet. Que ce qu'il a dit avant même la présidentielle, notamment lors du meeting fondateur de La République En Marche le 12 juillet à la Mutualité, le 12 juillet 2016, eh bien ce programme-là, il le suit. Et je trouve qu'il est vraiment c'est un peu le parler vrai de ce point de vue-là, Emmanuel Macron. Le problème, c'est que ce qu'il dit n'est pas forcément bien entendu.
Majoritaire.
C'est bien compris, mais c'est pas forcément majoritaire dans le pays. C'est, disons, une adaptation générale du pays aux réalités de la mondialisation dans un cadre capitaliste.
Fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. Now I got it in my room. Legs wrapped around my beard. Got the fastest car at Zoom. When I'm with you, I feel alive. You say you love me, don't you lie. Don't cry my heart, don't wanna die. Keep the pistol on my side. Cases fumes. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. We ain't stressing about the loot. My block made a case for real. This not the Molly, this the boat. Ain't no coming back from here. Let a life a lot familiar. It's so much gain that I can't see it. Yeah. Turn it up till they can't hear. Running, running around for the thrill. Yeah, dog, dog, run my reel. Raw, raw, I've been going to the real. Nah, nah, not in the back of the veil. Gorgeous, baby, keep me all this still.
been on this since we was kids. I fill my mind up with ideas. Cases fumes. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here.
Test in the room, le plus grand dans la pièce, le rap version Ego Trip de Travis Scott, programmation narcissique de Jean-Baptiste Libert.
J'ai mes cicatrices et je les frotte de manière régulière pour ne pas les oublier. Et donc pour moi, le fruit de ces deux années et demie dans la présidence, c'est une expérience qui s'est installée avec un moment de spasme très fort qu'a vécu le pays, qui m'a profondément marqué, comme il a marqué chacun. J'ai pas de regrets ou de remords, c'est pas mon tempérament.
France Inter.
Et ce que je veux faire maintenant, c'est absolument pas d'arrêter les transformations, la vision que je porte, mais de la faire beaucoup plus partager, d'expliquer à nos concitoyens pourquoi on en a besoin, quelle place ils ont à jouer dans cette transformation. Et ça passe par plus de présence sur le terrain, plus d'écoute, plus d'humanité, de respect.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Les confessions d'Emmanuel Macron au micro de RTL, c'était en octobre dernier, fin octobre, tout de, il y a quelques jours. On a parlé de l'acte 1 dans cette deuxième partie. Tout de suite, l'acte 2, où va-t-on?
C'est bien de me regarder moi, parce que je vais essayer de vous donner des réponses, en tout cas de demander bien sûr à nos invités. Alors, c'est sûr que Macron a écrabouillé d'une certaine façon le clivage droite-gauche. Vous parliez, Jérôme Sainte-Marie, de l'apparition d'un, ce qu'on pourrait appeler avec des guillemets bien sûr, un bloc populaire. Mais est-ce que au fond, face à Macron, c'est pas surtout un bloc extrémiste qu'on voit surgir? Vous parlez dans votre livre d'une montée aux extrêmes.
Oui, alors je me suis sans doute mal exprimé, la montée aux extrêmes, pour être, ça fait un peu prétentieux, c'est un terme qui est emprunté à la stratégie militaire, c'est le terme de Clausewitz. Oui. C'est-à-dire, c'est la montée aux extrêmes, ça signifie que dans un combat qui est commencé parce qu'on se dispute un bout de terrain, par exemple, eh bien, progressivement, les deux forces en présence, les deux armées, les deux pays, vont dépasser leur but initial, ce qui a justifié ce conflit. Et la logique du combat, c'est de viser à la défaite totale de l'adversaire. C'est ça, la montée aux extrêmes.
C'est une forme de nihilisme, donc.
C'est la logique interne, si vous voulez, du conflit. J'essaye de réfléchir en termes structurels, si vous voulez. Et là, Clausewitz décrit bien cela. Et comme Clausewitz a souvent fait le parallèle entre le combat militaire et le combat politique, puisqu'il décrivait la guerre comme la politique par d'autres moyens, là, je trouve qu'effectivement, on était dans une société libérale, une société politique libérale, avec une certaine modération entre la gauche et la droite, mine de rien, parce que là, c'était des ensembles sociaux composites. Et c'était pas mal parce que au sein de l'élite, par exemple, il y a dans tous les centres de décision de la société, il y avait, si j'ose dire, des gens de gauche, des gens de droite, une équipe de gauche et une équipe de droite. Donc tout, il y avait des préférences idéologiques, mais si vous voulez, ça ne couvrait pas tous les aspects de la vie sociale. Aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez une très grande cohérence du bloc élitaire au niveau sociologique, au niveau idéologique, au niveau politique. Et inversement, et même au niveau géographique.
Le bloc d'en face n'est pas tenté par
l'extrémisme. Au niveau géographique.
Et là, quand on voit que les Gilets jaunes, par exemple, finalement, le mouvement des Gilets jaunes s'est traduit en un vote, qui était le vote Marine Le Pen.
Oui, mais il ne s'agit pas d'extrémisme et de radicalité. Vous voyez, le problème de ces deux blocs, c'est qu'ils ont une vraie cohérence, et j'ajouterais même géographique. Là, les travaux de Jérôme Fourquet dans l'archipel français sont très intéressants pour voir à quel point, effectivement, plus on s'éloigne du centre des villes et plus le vote Marine Le Pen croît et plus le vote Emmanuel Macron baisse. Et donc, le fait d'avoir deux blocs très, très denses qui ne rassemblent pas toute la population française. Au milieu, il y a les classes moyennes, au milieu, il y a toujours la gauche et la droite. Mais disons qui aimantent le jeu politique et qui, d'après les sondages, seraient ces deux forces-là présentes aujourd'hui au second tour de la présidentielle. Ça a tendance à transformer les règles du jeu vers beaucoup plus de tension et vers beaucoup plus de dureté.
Vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Moi, je crois effectivement que ceux qui n'aiment pas Emmanuel Macron, qui sont majoritaires dans ce pays, cherchent celui ou celle qui leur permettra effectivement de récupérer le pouvoir et que la crise des Gilets jaunes, c'est une crise de la démocratie, c'est-à-dire c'est la volonté de cette France qui se sent d'ailleurs depuis Maastricht aussi régulièrement mise dans les buts, eh bien enfin de peser sur les décisions parce qu'elles se sont à la fois exclues du processus politique, ce qui dure depuis 20 ans, et désormais exclues du processus économique. C'est-à-dire que finalement, le contrat tacite qui était de dire « Bon, écoutez, vous comprenez, on gouverne bien en votre nom et regardez, il faut faire ci, il faut faire ça », ils se rendent compte que finalement, à la fin du mois, eh bien, ça ne paye plus et donc ils sont perdants des deux côtés.
Mais Macron a engagé des retraites, il a engagé des réformes, la réforme des retraites, pardon, la réforme de la santé...
Non, il n'a rien engagé du tout. Il a dit qu'il allait engager, à mon avis d'ailleurs, sur la réforme des retraites.
Bah ça,
il a fait une erreur
une grève
parce qu'il s'est pas demandé, il s'est pas posé la question de savoir s'il fallait un Big Bang, il s'est pas posé la question de savoir comment on allait le mettre en œuvre. Donc maintenant, il est dans un labyrinthe. La réforme des retraites, c'est comme le Brexit. Si vous avez compris comment ça fonctionne, bien écoutez, vous viendrez me donner des cours du soir parce que moi, je suis perdu. Et donc si nous sommes perdus, j'imagine qu'il y a quand même un grand nombre de retraités qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Donc il provoque de l'incertitude. Mais au-delà de ces sujets-là, je crois qu'il a arrêté de réformer à partir du moment où il y a la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il s'est heurté à ce moment-là à cette France. Il n'a pas d'autre réponse que larguer quelques milliards d'euros pour en fait permettre de survivre, alors que le problème est beaucoup plus structurel, la crise du travail, la crise d'aménagement du territoire, et tout simplement une partie du territoire qui veut retrouver le sens de la nation, et qui ne le retrouve pas d'ailleurs dans l'approche très clientéliste d'Emmanuel Macron.
Nathalie Segone, quels sont les dossiers justement sur lesquels les Français attendent Emmanuel Macron? Il y a la laïcité, les retraites, la santé, d'après vous?
D'après moi, surtout, c'est les réformes des retraites. Enfin, l'attendent. Je vois qu'ils sont de plus en plus sceptiques, donc ils l'attendent de moins en moins, finalement. Enfin, ils sont de plus en plus inquiets par cette réforme. Je pense que, effectivement, je suis assez d'accord avec Julien Aubert. Je pense qu'il n'y arrivera pas. Enfin, je pense que le quinquennat a été terminé à partir de la crise des Gilets jaunes, de la fin de la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus réformer. Il ne pourra plus réformer parce que maintenant, il aura la rue en face de lui. Et il ne pourra plus réformer parce qu'il n'arrive toujours pas. Il devait s'en prendre, il devait réformer l'État. Il n'arrive toujours pas, il peste contre l'État profond, contre cette haute fonction publique qui met des bâtons dans les roues, qui est conservatrice, qui empêche les réformes, etc., dont il est issu, qu'il aurait dû bien connaître. Et il n'arrive pas à la mettre au pas, il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut de cette... haute administration. Donc moi, personnellement, je pense que le quinquennat est terminé. Après...
Il y a quand même encore un petit bout de temps avant les élections.
Oui, d'accord, mais au niveau des réformes, ça sera cosmique. Enfin, ça sera des... Regardez, la réforme de l'État donc n'a pas eu lieu. La réforme des institutions, on ne la verra pas. La réforme des retraites, elle est quand même très mal partie.
Il y a
une réforme de la santé, Agnès Buzyn.
La question de la laïcité, également.
Alors, la laïcité, on attend depuis 2 ans et demi un grand discours. On ne l'a toujours pas et je doute qu'on l'ait un jour, en réalité. Voilà ce qui le reste a été fait, et je pense que maintenant il va dire écoutez, pour le reste de mes réformes, j'ai besoin d'être relégitimé par une élection présidentielle, et donc on va passer 2 ans et demi comme ça à repousser, à procrastiner parce qu'il n'y arrive pas. Donc c'est quand même. Après, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, quelqu'un permet. Arrivera à surgir et à attirer.
Ça commence un petit peu.
À s'introduire dans ce.
Un petit peu. Qui commence à
émettre. Danny Cohn-Bendit, sur votre antenne, a dit qu'il ne croyait pas que Yannick Jadot soit un jour président de la République. Oui. Donc
je crois que les gens de droite voter.
Je ne dis pas qu'il y a une figure qui apparaît quand même.
La question, c'est ça. Mais pour l'instant, ils sont tous moins bons que lui pour incarner ce consensus élitaire. Ils sont tous moins bons que lui. Voilà. C'est lui qui l'exprime le mieux. C'est lui qui l'incarne le mieux. Après, lui, il a surgi 2 ans et demi avant, donc voilà.
Jérôme Sainte-Marie ?
Oui, moi je...
Pensez comme...
Moi, je rappelle quand même qu'il y a des réformes qui ont été entreprises et des réformes qui sont toujours en train d'être entreprises, notamment la réforme, par exemple, de l'indemnisation du chômage. La réforme qui n'est pas populaire, la réforme, mais qui n'est pas...
De toute façon, aucune réforme ne devient populaire. Vous connaissez des réformes populaires ?
On doit bien en trouver. À une époque, elles étaient populaires. Le problème, c'est qu'actuellement, pour s'adapter à la mondialisation, de fait, les gouvernements sont obligés, ou en tout cas se sentent obligés, d'avoir des réformes qui correspondent à moins de droits plutôt que davantage.
Donc c'est plutôt des contre-réformes.
Donc c'est pas une question d'immobilisme de la population. C'est plutôt le fait que, bon, c'est plutôt des mauvaises nouvelles, en réalité, pour la majorité de la population. Ce qui pose d'ailleurs fait poser un grand risque pour Emmanuel Macron pour l'horizon 2022. Si, comme vous le dites, effectivement, ça sera, sa promesse sera de dire « réalisez-moi pour que je puisse mener des réformes » qui, par ailleurs, pour la plupart, font plutôt peur qu'autre chose, eh bien,
pas.
Évidemment, c'est pas très mobilisateur. Et c'est une des raisons, c'est pas la seule, pour laquelle je pense que la dynamique sociale qui est engagée à travers tout le quinquennat peut aboutir à un renversement, c'est-à-dire à une victoire d'un bloc populaire dirigeant sur le bloc élitaire. Est-ce que, effectivement, dans 2 ans et demi, nous aurons, comme les deux candidats, ça sera Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est-à-dire la formule qui est actuellement testée par les sondages? Ça, j'en sais absolument rien. Ça fait combien? Si on prend les élections précédentes, on sait bien que beaucoup, les sondages étaient faits pendant des années sur des hypothèses et avec des noms qui finalement ne se sont pas vérifiés. Il y a trop d'exemples pour que je les cite. Mais il me semble qu'effectivement, pour l'instant, il y a cette perspective qui s'impose à l'opinion. Avec un jeu assez équilibré, c'est peut-être, et c'est un peu aussi l'objet de mon livre, c'est peut-être d'établir cet état des choses qui peut faire surgir des solutions alternatives.
Pour vous, Jean-Marie Roire, vous pensez aussi que c'est plié pour Emmanuel Macron, après la crise des Gilets jaunes?
Oui, je crois que c'est, en effet, il y a un pari à gagner qui va être difficile. Mais je crois qu'il y a quelque chose chez lui de très étrange. C'est qu'il a du mal à montrer, il parle beaucoup, mais il a du mal à montrer un grand dessin pour les Français. Un grand dessin et avec de la pédagogie. Regardez, je ne vais pas monter au général de Gaulle ou à Pompidou, mais c'était des gens très clairs. Ils arrivaient, et pourtant, à ce moment-là, la politique était beaucoup moins compliquée qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la politique, nous, vous la comprenez, moi je ne la comprends pas toujours. Et j'ai l'impression qu'en dehors des élites, en effet, et c'est vrai que son discours s'adresse, a tendance à s'adresser aux élites, mais il y a une question que je me pose. Pourquoi est-ce que, faut pas exagérer, Giscard s'adressait aussi aux élites, et, enfin, il s'appuyait sur les élites, Chirac aussi, Sarkozy également. Et Sarkozy, ce qui est très étrange, c'est que Sarkozy, qui avait un discours assez proche, au fond, de celui de Macron, mais restait populaire. Et alors là, c'est pour ça que je crois qu'on lui fait un procès un peu injuste, à cause aussi de sa maladresse. C'est vrai que là, quand il parle de l'ami mandat qu'il appelle, en effet, les mystiches, il aurait pu dire la mi-temps, c'était plus clair pour les populos.
En plus, il aime le foot, il aurait pu les...
Non, mais même, il aime le foot. Non, mais les mystiches,
moi, je trouve ça l'entracte.
Moi, je trouve ça formidable. Je crois que des gens comme nous, qui apprécions et qui nous amusons à les mystiches, je crois que pour le populaire... Non, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment il va réussir à renouer avec le populaire. Parce que ça, je crois que la France est toujours appuyée, quand même, le gouvernement, tous les gouvernements, sur les élites, ce qu'il en reste, en tout cas, parce que beaucoup sont partis. Mais qu'il faudra quand même qu'il réussisse à renouer avec le populaire. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'on est là dans des fantasmes. Il y a un fantasme qui lui colle à la peau, la banque Rothschild, qui n'a pas collé à la peau de Pompidou, et également l'ENA, pardon, mais c'est un ensemble de choses. Et d'ailleurs, sa réaction vis-à-vis de l'ENA me paraît absurde, parce que justement, ce n'était pas le moment
de vouloir supprimer l'ENA.
On avait la
démagogique, surtout.
Pardon ?
Démagogique, surtout.
Oui, c'était trop démagogique.
Parce que je rappelle quand même qu'il était pour la... Enfin, il défendait cette école et qu'il a bien fallu sacrifier un poulet devant la colère du peuple. Et donc, on a expliqué qu'en sacrifiant l'école, demain, le problème de la France irait mieux. C'est profondément tout ce que je déteste en politique. C'est faire croire aux gens à la baguette magique, à la solution miracle, en disant, regarde, j'ai tué le poulet, donc il n'y a plus de problème, les dieux sont rassasiés. Je crois que c'est pas comme ça qu'on fait de la politique au sens moderne.
Il y a une dimension dans laquelle il s'inscrit un peu dans ses prédécesseurs, c'est cette forme d'hyper-présidence, d'omniprésidence. Sarkozy, c'était pareil, Hollande, c'était pareil, c'était tout le temps là qui réagissait au moindre fait divers.
Oui. C'est lié aux institutions, c'est l'erreur du quinquennat, qui fait que de toute façon, le Premier ministre est un directeur de cabinet, le Parlement qui était consultatif est devenu décoratif, le non-cumul des mandats fait qu'aujourd'hui d'ailleurs, plus personne ne veut être parlementaire, regardez ce qui est en train de se passer, et donc en vidant le Parlement de sa fonction, eh bien le débat, au lieu de se faire dans la chambre, se fait dans la rue. Et demain, vous aurez les féodalités locales qui diront aux souverains, bah, écoutez, vous avez telle légitimité, mais nous, on a l'argent, on a les moyens, on a les responsabilités, on est contre.
Eh bien, l'avenir n'est pas très glorieux.
On verra bien,
presque.
Gardons-nous de jouer les Cassandres, Laurent.
On va écouter de la musique pour nous faire passer.
Ah bah oui, bonne idée. Musique macronienne. All right, let's have a
little rumble at the Ritz tonight. Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Christophe Bourseiller vous a posé une question, Marion Guilbault.
Mais je
musique macronienne.
Mais je ne saurais dire, cher Christophe.
On va savoir. Tout de suite. Dès la première note, on va le savoir.
On va voir. Voilà, parce qu'on adore déjà son nom, Sabine Appart.
Il y a un mystique chez Macronien.
Je ne sais pas, on va lui demander. On l'a découverte, en tout cas, sur le site musical La Souterraine, avec ses reprises. Elle reprenait le poète Pierre de Ronsard, suivi de celle d'un autre poète, un dada punk du XXe siècle, Jean-Luc Le Ténia. Donc un grand écart, hein, poétique et stylistique entre les deux. Mais Sabine Appart a de la souplesse, d'abord entre les doigts parce qu'elle a fait 10 ans de piano au conservatoire, et puis dans les oreilles parce que elle s'est frottée au doux délire de Gainsbourg, de Léo Ferré ou de Philippe Catherine. Pour le reste, Sabine Appart est une énigme, comme notre président, ou presque. Une inconnue, mais appelée à ne pas le rester. Un look à la Françoise Hardy, une voix perchée à la Brigitte Fontaine des débuts, et des chansons synthétiques qui nous ramènent au meilleur de la pop des 80s, celle d'Eli et Jacques No. Alors ne vous laissez pas du tout avoir par son air de première de cordée, parce que Sabine Appart sait construire des chansons caustiques.
C'est vrai qu'elle a un air première de cordée.
Ouais, vous avez remarqué. Parce qu'elle sait construire des chansons caustiques parce qu'elle a en plus un diplôme d'architecte et ironiser aussi sur les postures et les codes du Nouveau Monde. Bonsoir Sabine. Je me demandais en quoi Ronsard, Pierre de Ronsard, vous avez si inspiré, pour que vous l'adaptiez en chanson.
Alors c'est simple, en fait j'ai trouvé le livre de Ronsard dans ma rue. Et je ne sais pas par quelle magie, je me suis mise devant mon piano et ça m'a inspiré des mélodies très naturellement, parce que c'est, enfin, la forme du sonnet est très musicale. Et c'est comme si j'avais juste révélé quelque chose qui existait déjà dans ces sonnets.
Vous voyez que c'est macronien. Sonnet et mystique, c'est la moitié de l'Alexandrin. Je suis désolée de le dire.
L'important, c'est la rose.
Ça, c'est autre chose.
C'est ça. On va vous écouter sur une de vos chansons à vous, pas Pierre de Ronsard, Sabine Appart, en live dans le NRV. C'est à vous.
Ne t'approche pas de moi. Je suis une vacherie. Je suis une furie. Je vais te
Pierre de Ronsard qui a signé le texte.
Mais pas du tout, c'est sa chanson à elle.
Ah d'accord.
Celle-là,
okay.
Ne m'approche pas. Les chansons de Sabine Appart, elles sont à retrouver sur les internets, sur le site de La Souterraine. Elle sera en concert à la Maison de la Poésie pour un concert Ronsard, et ça, ce sera vendredi 15 novembre. Elle est accompagnée par Sébastien Gastine à la basse, et la prise de son ce soir était assurée par Charles Pellabon et Guillaume Roux. Merci beaucoup, Sabine, d'être passée par le Nouveau Rendez-vous.
Et merci à nos invités. Merci, Jérôme Sainte-Marie. Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme, c'est aux éditions du Cerf. Julien Aubert, Emmanuel, le faux prophète, ce que cache la révolution Macron, aux éditions du Rocher. Nathalie Segaune, je rappelle le dossier, mi-mandat, ce que le pouvoir a révélé de Macron, c'est à retrouver dans le numéro de l'Opinion du 5 novembre dernier. Et enfin, Jean-Marie Roire, les aventuriers du pouvoir de Morny à Macron, c'est bien sûr aux éditions Robert Laffont. Merci à vous quatre. Merci, Christophe Bourseiller.
Je vous en prie.
On va se retrouver bientôt.
Oui.
Ouais, la semaine prochaine.
Bientôt.
Très bien.
Bientôt.
C'était le NRV première partie. On se retrouve dans 15 minutes pour le NRV La Suite France Inter Plus, mais demain.
Ça fait peur la justice et je comprends que ça fasse peur.
Ça fait peur la justice. Gros plan sur la magistrature française. Mais qui sont-ils pour nous juger? On vous attend sur le sujet. Vous pouvez laisser des messages, des questions, des analyses sur notre répondeur au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. En live, Marion?
Un film noir. Un film noir, c'est leur nom.
C'est
Pop,
leur nom.
Garage, Glamour,
les noms des
noir.
Groupes sont de plus en plus surprenants.
De plus en plus curieux,
sûr,
hein, vraiment.
Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, préparation, programmation, Virginie Rouzic et Clémence Didigeant.
Rendez-vous.